l'économie, une macroéconomie, avec notamment les derniers chiffres qui sont tombés et qui nous expliquent un petit peu toute l'implication que ça peut avoir. Stéphane, je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Pour tout le monde, merci pour votre temps. Ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour d'horizon de l'économie en 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite de passer la parole à Michel. Évidemment, on prendra des questions, aller un petit peu vite. Premier point, il faut évidemment parler du coronavirus et de l'évolution de la pandémie. Alors, je ne suis pas un spécialiste, évidemment, mais prévoir. Je voudrais juste dire deux choses. La première chose, c'est que sur la pandémie, on pense qu'on a passé un pic. C'est très clair en Italie, à l'heure actuelle, même si le nombre de cas diminue lentement. C'est de plus en plus clair en France et en Allemagne. Par contre, on est toujours avec une accélération assez forte aux États-Unis, et je pense que les jours qui viennent vont être extrêmement difficiles aux États-Unis. Le problème que j'ai avec ce genre d'argument, et c'est le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est que dire qu'on a passé un pic en termes de cas ne veut pas dire que le déconfinement est pour demain matin et que tout est fini. Et je pense qu'il y a un sujet vraiment important qui est un peu occulté par les marchés qui regardent beaucoup les chiffres.
Stéphane, on ne t'entend plus, si tu peux te rapprocher un petit peu de ton micro.
Oui, est-ce que c'est mieux comme ça?
Oui, beaucoup mieux.
Bon, alors je vais rester comme ça. On a un vrai sujet sur le déconfinement. Pour vous donner juste deux arguments complètement contradictoires, le Boston Consulting Group a publié un papier en fin de semaine dernière qui disait qu'il y aura un déconfinement en Europe au plus tôt à la mi-juin. À l'opposé, l'Autriche a annoncé un déconfinement qui commencerait le 14 avril pour les petits commerces, le 30 avril pour tous les commerces, donc c'est beaucoup plus rapide. Ça, c'est très important, parce que la durée du confinement, et la rapidité de sortie sont absolument cruciales pour la reprise économique, et je pense qu'il y a une incertitude qui reste très importante. Pour l'instant, le marché veut surtout voir l'amélioration du nombre de cas. Je pense qu'il ne faut pas faire extraquer au moins aussi important, si ce n'est plus. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de croissance? Vous avez peut-être vu les estimations de la Banque de France, moins 6% sur le PIB français sur le premier trimestre. On va avoir effectivement des chiffres absolument calamiteux en termes de croissance, en termes de création d'emplois. Là aussi, je voudrais revenir sur deux idées très très simples. Première idée, lorsqu'on a un choc extérieur de ce type-là, c'est la même chose avec un tsunami, avec un tremblement de terre. C'est un choc qui est transitoire. C'est très différent de la crise de 2009, crise financière. On a normalement un rebond de l'activité et on revient, on corrige la baisse ex post. Donc on a un profil en U, en tête, avec une reprise économique a posteriori. Et vous n'avez pas de perte de croissance sur le long terme. Deuxième, cette histoire dépend essentiellement de la durée de la crise. C'est ça la variable clé. Vous avez par exemple des chaînes de production qui deviennent extrêmement complexes. Quand vous achetez une voiture, il y a 35 pays qui participent à la construction. Donc vous voyez que si on a un confinement qui dure, votre chaîne de production va avoir beaucoup de mal à repartir. Et donc, ma belle histoire de U va être hypothéquée parce que la deuxième partie du U va être beaucoup plus difficile à mettre en place. C'est pour ça que ce débat sur le déconfinement est absolument crucial. Si ça va rapidement, on peut avoir une confiance assez forte sur la reprise sur la deuxième moitié de l'année. Si en revanche, le déconfinement commence en juin et est fait de manière très graduelle, ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. En attendant, on peut tout à fait envisager une baisse du PIB de 10%. Je pense que c'est un ordre de grandeur qui est absolument extraordinaire, mais qui est plausible. Ça veut dire une baisse des EPS de l'ordre d'un quart ou d'un tiers. Et donc un choc extrêmement violent à absorber. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Du côté des bonnes nouvelles, il faut prendre en compte le policy mix. Et par policy mix, on entend politique budgétaire et politique monétaire. Et la réaction a été absolument colossale, mais surtout a été d'une rapidité sans précédent. Grosso modo, ce que la Fed ou la BCE ont annoncé depuis quelques semaines, c'est l'équivalent de ce qu'ils ont fait pendant toute la crise précédente sur 4-5 ans. Donc ça, c'est un point qui est très important, qui devrait amortir le choc et surtout qui devrait permettre d'avoir une reprise a posteriori le jour où la crise du coronavirus est finie. Et donc je voudrais rentrer un petit peu dans le détail de ces mesures. Sur le plan budgétaire, il y a essentiellement trois axes. Un premier axe qui est essayer de maintenir la demande. Alors à court terme, évidemment, ça aide pas énormément parce que si les usines sont fermées, les restaurants sont fermés, ça sert pas à grand chose. Mais il y a un certain nombre de politiques d'aide à la demande, infrastructures, etc., qui vont aider à la reprise. Deuxième point très important pour moi, il y a un transfert du BFR des entreprises sur le budget de l'État. C'est par exemple les programmes de chômage partiel qui permettent aux entreprises de transférer une partie du coût salarial à l'assurance chômage. Même chose pour les moratoires sur les paiements de sécurité sociale. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le risque, c'est que vous ayez des entreprises, tout le tissu de PME en particulier, qui aient des entreprises viables, solvables, mais qui ont des problèmes de liquidité et qui pourraient déposer leur bilan pendant la période de crise. Et si vous avez cet effet-là, si le tissu de PME est impacté, évidemment, la reprise sera beaucoup plus compliquée et ma belle histoire de U va être mise à caution. Donc, cette partie-là est très importante pour moi en termes de préservation de la capacité de rebond de l'activité. Évidemment, la contrepartie, c'est un déficit de l'État qui va être là aussi absolument monstrueux dans la plupart des pays européens. Troisième axe pour les gouvernements, c'est des garanties sur les prêts alloués aux entreprises. Il y a en particulier une annonce la semaine dernière en Allemagne qui a été colossale. Même idée. L'idée, c'est d'essayer d'inciter les banques à prêter aux entreprises, de leur fournir de la liquidité pendant les mois difficiles pour leur permettre de passer le guet et de les accompagner sur la reprise. Donc vous voyez, il y a des mesures vraiment extrêmement importantes de préservation du tissu économique qui ont été prises. Ça, c'est la politique budgétaire. Deux mots sur la politique monétaire qui, là aussi, est énorme. Alors juste pour vous donner un chiffre, le bilan de la Fed a progressé de 1 000 milliards sur le mois de mars. Le bilan de la Fed, c'était 900 milliards en 2009. Donc, vous voyez, ils ont fait en 4 semaines, en fait, c'est des bilans hebdomadaires, en 4 semaines, ils ont fait, ils ont créé 1 000 milliards de liquidités. C'est grosso modo la moitié du PIB français, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, là aussi, une réaction, il faut garder à l'esprit, extrêmement rapide, extrêmement violente. Quels sont les axes de la politique monétaire? Là aussi, il y a trois points importants à mon avis. Premier point, le QE. Il y a plus de 1 000 milliards, 1 110 milliards pour être précis, qui ont été annoncés par la BCE. Donc je vous ai dit 1 000 milliards aux États-Unis, Banque du Canada, Banque d'Angleterre, etc. En fait, c'est simplement de la monétisation de dette. Ça permet d'annuler la dette, pas comptablement, mais de facto, ça permet de financer la dette publique par la planche à billets. Donc c'est très bien d'un point de vue économique, ça permet aussi de stabiliser les marchés. L'annonce du QE de la BCE a non seulement fait baisser les taux italiens vers 1,5, mais surtout les a stabilisés. La volatilité s'est complètement effondrée et ça c'est très bien parce que ça stabilise les marchés. C'est au moins un point d'ancrage stable. Donc ça, c'est le premier axe, financer les États. Deuxième axe, financer les corporates via le marché du crédit. Donc ça, c'est le QE de la BCE. Aux États-Unis, la Fed n'a pas le droit d'acheter du crédit, donc ils ont fait une espèce de tour de passe-passe comptable où ils ont créé un véhicule financier qui est détenu par l'État, mais qui est financé par la Fed. Bref, ils se sont débrouillés, c'est un peu de la magie noire, mais la Fed est présente sur le marché du crédit. Ça permet à beaucoup d'entreprises d'émettre de la dette, de restaurer leur liquidité et donc d'avoir accès au marché. Et d'ailleurs, la réaction des spreads IG en Europe est anormalement faible quand on compare à la baisse de la bourse ou à l'augmentation du VIX, ce qui prouve bien qu'il y a eu un effet QE sur ce marché-là. Troisième élément pour les banques centrales, c'est essayer de donner du financement aux banques de telle manière qu'elles puissent financer l'économie. Et là, je voudrais rentrer sur quelques détails techniques, mais qui sont, à mon avis, extrêmement importants sur la BCE. Il y a des opérations de repo, donc c'est comme ça que la BCE finance les banques, qui sont extrêmement généreuses en termes de taux d'intérêt et en termes de d'acceptation de collatéral. C'est-à-dire que les banques peuvent maintenant allouer des crédits aux PME, garantis par l'État, et se refinancer à la BCE de manière très facile. Là aussi, on est sur des sommes colossales. Hein. Le secteur bancaire, depuis 15 jours, a emprunté plus de 250 milliards de liquidités à la BCE. Donc là, l'idée, c'est de maintenir le canal de financement de l'économie via les banques. Je vous rappelle qu'en Europe, 20% de la dette des entreprises provient du marché, 80% provient des banques. Donc il faut absolument que les banques accompagnent les entreprises sur cette crise. Donc, vous voyez, il y a trois canaux. Il y a le canal financement des États, monétisation de la dette, le canal marché du crédit, surtout pour les grands corporates pour qu'ils stockent des liquidités, et puis le financement par les banques de l'économie. Donc on se retrouve, je vais finir sur ça, dans une situation qui est un peu entre deux eaux sur les marchés. On va avoir à digérer dans les jours qui viennent énormément de mauvaises nouvelles, en particulier des nouvelles macroéconomiques catastrophiques, probablement des communications d'entreprises qui seront du même acabit, et puis beaucoup de downgrade des agences de notation. Par contre, il faut garder à l'esprit qu'on a cette réponse de polysémique qui est extrêmement... Heureusement, tout a été annoncé, donc il ne faut pas attendre de nouvelles dans les semaines qui viennent. Et donc, je pense que le news flow va être un petit peu indigeste dans les semaines qui viennent, parce qu'on va voir toutes ces mauvaises nouvelles macro et pas de nouvelles initiatives de taille de politique budgétaire ou monétaire. Par contre, à un horizon de 6 mois, 1 an, une fois de plus, il me semble que le scénario central, c'est une reprise, que les politiques qui ont été mises en place permettent de valider ce scénario-là. Et si on a une normalisation, même partielle, des niveaux de profit l'année prochaine, on est là par contre sur des valorisations qui sont extrêmement attractives. Donc un marché très nerveux sur les semaines qui viennent, sans tendance claire. Par contre, on est plus constructif à un horizon de 6 mois, 1 an. Voilà, j'arrête là. Je laisse la parole à Michel et puis nous prendrons avec plaisir des questions à la fin. Merci.
Merci beaucoup, Stéphane. Michel ?
Oui, bonjour à tous. Je tiens à signaler qu'il y a aussi Stéphane Franquel qui est sur le call avec nous, qui gère avec moi l'équipe de gestion de Tocqueville. Bon, après avoir fait un beau point sur l'économie et sur les enjeux actuels, on va parler évidemment des marchés actions. Ce qu'on peut constater, c'est que nous venons de vivre une crise boursière extrême, on est encore dedans, mais ça va un peu mieux. Tout est allé très vite depuis la mi-février. Un chiffre, il y a eu 25 trillions de valeurs détruites sur les marchés au pire de la correction. Ce chiffre, ça veut dire qu'on a quasiment la taille combinée des économies européennes et chinoises qui avaient été évaporées par la baisse de tous les marchés financiers mondiaux. Le mouvement a été justifié, hein. Il y a une vraie crainte par rapport à un défi qui est complètement nouveau, un défi sanitaire, économique, un défi de l'offre et de la demande. Alors, cette crise a été extrême, on l'a vu dans l'amplitude des mouvements sur les différents indices. Si on regarde notre CAC 40 national, on s'aperçoit qu'il a perdu 40% entre le 19 février et le 20 mars, et que depuis, il a repris 18%. Bon. Ça nous laisse malgré tout en baisse de 25% depuis le début de l'année, donc c'est une belle correction. La situation est un peu plus rose sur d'autres marchés, alors étonnamment d'ailleurs, puisque si vous regardez le Nasdaq américain, qui est la little darling des investisseurs depuis plus de 20 ans maintenant, on s'aperçoit qu'après le rebond, le Nasdaq n'est plus en baisse que de 7% depuis le début de l'année. Donc 7%, c'est quasiment rien. Une crise, quelle crise? C'est comme s'il n'y avait pas de virus aux États-Unis. Tout ça pour dire qu'on a eu le bear market le plus rapide de l'histoire, puisqu'il a fallu que 22 jours pour perdre 20%, alors que d'habitude il en avait fallu 250 par contre en 2008-2009. Et on a aussi eu le bull market, donc un mouvement depuis le plus bas de 20%, le plus rapide de l'histoire, puisqu'il n'a fallu que 4 jours aux États-Unis pour récupérer 20%. Si on regarde la période la plus récente, depuis 10 jours, on s'aperçoit qu'on a un peu plus de sérénité sur les marchés. C'est sûrement dû aux nombreuses annonces monétaires et budgétaires qu'a mentionné Stéphane Léo. On a plus de sérénité, mais on n'a pas encore un retour à la normale. Si on regarde l'indicateur classique du risque, la volatilité, sur l'Eurostoxx 50 par exemple, il est passé de niveau stratosphérique, 90, à un niveau actuel de 45. Mais une volatilité de 45, ce n'est pas la norme. La norme, c'est plutôt 15 ou 16. 45, ça veut dire que les investisseurs s'attendent à avoir des mouvements quotidiens de marché de plus ou moins 3%. Vous considérez que ce n'est pas ce à quoi on est habitué. Néanmoins, comme on l'a vu précédemment avec Stéphane, et comme vous le savez, c'est totalement justifié par la complexité de la situation sanitaire, économique et financière actuelle, avec cette question hein, toujours que tout le monde a en tête. Comment rouvrir la société et l'économie sans risquer la rechute, hein, la redoutée seconde vague dont tout le monde parle dans les médias. Alors, partant de ce point de vue, qu'est-ce qu'on peut anticiper pour les marchés d'actions? Est-ce qu'ils ont constitué à ce stade une base solide pour rebondir durablement? Alors, d'un point de vue technique, ça semble trop tôt pour l'affirmer. Stéphane a tout à l'heure mentionné le tremblement de terre, ben, c'est un peu comme ça hein, sur les marchés aussi. Quand on a une forte correction sur les marchés, aussi violente, quasiment 40% en très peu de temps, on a souvent des répliques. Pour ceux qui étaient là et qui s'en rappellent, lors de l'automne 2008, en octobre et en novembre, on a eu un certain nombre de rebonds de quasiment 20% sans aucun lendemain. Donc d'un point de vue purement technique, il faut être assez prudent. Si on regarde d'un point de vue fondamental, alors vous l'avez compris en écoutant Stéphane Déo, que les enjeux, les défis sont immenses pour les mois à venir, donc il semble qu'il est encore un peu tôt pour se prononcer. À court terme, on le voit, l'impact est faramineux. Je ne sais pas si vous avez vu les échos d'aujourd'hui. Ils reviennent sur le rapport de la Banque de France qui estime que le confinement coûte à la France 20 milliards d'euros par semaine. Donc 2 semaines de confinement en mars aurait suffi à effacer 5 ans de croissance selon la Banque de France. Alors les chiffres paraissent assez extrêmes, donc à prendre avec des pincettes. Néanmoins, ça donne un peu les proportions et le côté exceptionnel de la crise actuelle. À moyen terme, d'un point de vue économique, on peut aussi se poser la question de ce qui va advenir des hordes de chômeurs temporaires que cette crise soudaine a créée. Vont-ils retrouver un emploi rapidement après la crise? Quelle sera l'inertie aussi des entreprises? Ne vont-elles pas privilégier d'abord le renforcement de leur bilan avant de recommencer à investir dans l'économie? C'est une question assez forte. Enfin, la question sanitaire, on en parlait tout à l'heure aussi, en particulier aux États-Unis, elle reste tout à fait centrale. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours en pleine crise, même si les marchés se projettent d'ores et déjà sur l'après. La question de la révision des bénéfices, alors on peut en parler, elle est là évidemment sur 2020, puisque comme toujours, le consensus est très en retard par rapport à la réalité. On aura évidemment une révision très très violente des bénéfices attendus sur 2020, mais il est déjà acquis pour le marché que 2020 sera un accident de parcours, et ce qu'on peut constater, c'est que tout le monde aujourd'hui parle de 2021 et 2022. On est donc déjà sur une réflexion sur l'après. Donc, si tout se passe bien, on peut imaginer que dans quelques semaines, on aura une question sanitaire qui sera, on l'espère, beaucoup mieux circonscrite et en voie d'évacuation. On aura sûrement un peu plus d'apaisement et les conditions seront plus ou moins réunies pour un rebond durable de la bourse. Ce qu'on commence à voir, c'est que le sentiment de marché qui était au plus bas, puisque sur les indicateurs d'aversion au risque, on a là encore créé un plus bas historique, puisqu'on avait touché 0.0. On voit que le sentiment de marché s'est amélioré, puisque, par exemple, ces derniers temps, l'effet sur le cours de bourse de la société qui augmente le capital est très positif. Le titre rebondit, alors qu'on pourrait s'attendre normalement, en cas de dilution forte, à une baisse. On a l'exemple de Azos, qui est un distributeur de vêtements en ligne, qui a procédé à une augmentation de capital très importante, qui a eu pour effet de faire rebondir fortement son titre. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui sur les marchés? Qu'est-ce qu'il semble dans ce contexte le plus sage de faire? On a deux observations là-dessus. Généralement, dans la première phase du rebond des marchés, ce sont les gagnants du cycle précédent qui ont tendance à l'emporter et à dominer la performance. Si on regarde 87, 2000 ou 2008, on montre qu'à chaque fois, les marchés plébiscitent dans un premier temps ce qui a fonctionné dans le passé récent, un peu par effet d'aubaine présumée. En 2002, on a vu les TMT, en 2009, ça avait été les banques. Donc on peut penser que cette fois, le rebond va favoriser d'abord les valeurs à la croissance visible et prévisible, les valeurs de qualité. Notre priorité aujourd'hui, la priorité pour l'investisseur, ça doit également être de se focaliser sur les entreprises capables de survivre à un arrêt temporaire mais bien réel de leur activité, que ce soit en ayant des lignes de crédit disponibles ou en réalisant des dilutions via des augmentations de capital, dilutions qui ne doivent pas être trop excessives pour les actionnaires. Pour nous, il s'agit donc de privilégier trois types d'investissements aujourd'hui. Les premières, donc les valeurs de croissance visibles. Les dossiers aussi qui bénéficient de la situation actuelle. Il y a certains fournisseurs ou certaines activités plus solides, plus résilientes que d'autres qui bénéficient du confinement. Et également se focaliser sur les titres qui présentent le potentiel de rebond le plus important. Ça, c'est pour le court terme. À moyen terme, notre deuxième observation, c'est que bien souvent, quand on a un krach boursier comme celui qu'on a vécu, une crise quasi systémique, on a souvent une redistribution des cartes en termes de leadership de la performance sur les marchés. En 1988 encore, on a eu la fin de la bulle des actions japonaises. En 2002, la fin de la TNT et le renouveau de la value. Et en 2009, on a eu la fin de cette phase value et le début du leadership de la croissance. Donc on peut se poser la question, cette fois, de ce qui va se passer et quels vont être les changements en termes de leadership sur les marchés. Quelques pistes pour cela. On imagine bien qu'il pourrait y avoir une domination un peu moins forte de l'investissement sur les États-Unis. Pour plein de raisons, on peut en citer une différence de taux moindre entre les taux américains et les taux dans le reste du monde, un peu ces 10 dernières années ultra consensuel, le déficit budgétaire, on en a parlé avec Stéphane, qui explose. Il y a la disparition aussi des programmes de rachat d'actions aux États-Unis qui ont été extrêmement importants dans la bonne tenue des marchés américains vu que ça a été quasiment 100% des achats marginaux sur ce marché-là. Bon, il y a toujours la belle histoire de la tech aux États-Unis, mais on pense qu'il y a des raisons aujourd'hui d'aller voir un peu ailleurs, désormais, que ce soit sur les pays émergents ou en Europe. On pense aussi qu'à moyen terme, la reprise économique sera forte, vu l'ampleur des plans mis en œuvre par les gouvernements et les banques centrales. Et dans ce cadre-là, on mettrait bien une pièce sur les petites capitalisations et les valeurs cycliques qui devraient bénéficier à plein d'une reprise de l'appétit pour le risque. Qui dit augmentation des masses monétaires, plan budgétaire immense pour relancer l'économie, dit potentiellement à terme une résurgence de l'inflation. Alors ça fait très longtemps qu'on en parle, qu'on l'attend, qu'elle n'arrive pas, mais jusqu'à présent on n'avait jamais eu cette pièce manquante qui était celle de l'élément budgétaire. On l'a aujourd'hui, donc on imagine que l'inflation devrait revenir, potentiellement une requantification des courbes de taux, ce qui devrait favoriser à terme le style value qui est en déshérence depuis de nombreuses années. Maintenant, évidemment, la grande question qui reste à connaître, c'est cette sortie de crise, quel scénario? Et puis on devrait avoir à un moment donné ce fameux changement de leadership. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au sein de l'équipe de gestion de Tocqueville? Vous savez qu'on est très très proche des entreprises, donc notre premier réflexe, c'est de multiplier les contacts avec celles-ci. Ce qu'on en tire à ce stade, c'est que les discours sont plutôt optimistes sur leur capacité à s'adapter à la donne actuelle, sur la reprise que la plupart voient être forte et rapide. Deux exemples, un contact avec Puma, la société de chaussures et d'équipements sportifs, qui joue une reprise très forte, aussitôt le confinement levé. Ou encore sur le secteur des paiements, un acteur comme Worldline, français, qui est en train de racheter son compatriote Ingenico, qui pense également que la reprise de la consommation sera quasi immédiate après la levée du confinement. Si on parle de nos fonds et de nos performances, alors pour rappel, Tocqueville Finance a bien évolué ces dernières années. Aujourd'hui, nous avons trois grandes franchises, trois pôles d'expertise, la croissance, les petites et moyennes capitalisations. Ces trois franchises sont complétées par des fonds thématiques transversaux sur la France, la santé et la technologie, pour ne citer que. Aujourd'hui, on cherche une chose en priorité, la qualité des équipes de management dans les sociétés dans lesquelles on investit. Pour nous, c'est vraiment fondamental dans cette période à moindre visibilité, où la justesse des décisions est plus que jamais importante. La crise actuelle, évidemment, elle a été très soudaine, comme la plupart des gens, nous ne l'avions pas anticipé. Si on regarde aujourd'hui les performances de nos fonds, on constate que la grande majorité, la plupart même des fonds de Tocqueville Finance sont aujourd'hui au-dessus de leur indice de style, en particulier sur les fonds croissance et sur les fonds de petite et moyenne capitalisation. Pour ce qui est de la value, on est encore aujourd'hui encore un peu en dessous de l'indice de style. Il y a une raison à cela. Les portefeuilles sont largement investis sur des sociétés à très forte décote, des sociétés qui ont le plus souffert dans la baisse, mais qui, selon nous, ont un potentiel de rebond supérieur sur les mois à venir. Voilà, en conclusion, juste pour vous dire comme toute crise, la crise actuelle est porteuse de risques, bien évidemment, mais aussi d'opportunités majeures. On pense que certains modèles d'entreprise vont sortir renforcés de cette crise, la logistique, la livraison à domicile, les technologies liées au télétravail, au travail à distance, mais aussi tout ce qui est équipement, analyse médicale et bien d'autres secteurs. Donc, tout notre défi aujourd'hui, c'est de travailler jour après jour à trouver les meilleures idées d'investissement actuelles en Europe après cette correction et pour préparer le rebond durable. On essaye d'identifier les sociétés qui seront les gagnantes de demain en bourse. On continue aussi à œuvrer sur l'aspect extra-financier qui, pour nous, sortira renforcé de cette crise. Et comme vous l'avez compris, on essaye d'augmenter encore et toujours l'espérance de gain de nos portefeuilles en les faisant tourner, en les repositionnant sur les opportunités les plus importantes et les plus intéressantes pour nous. Voilà, c'en est tout pour moi. Je peux vous laisser peut-être poser des questions ou Stéphane Franquet si tu as des choses à ajouter. Voilà.
Merci Michel. Donc, si vous avez des questions à poser, vos questions, d'abord en faisant une petite manipulation qui est étoile 1 pour pouvoir poser votre question. Sinon, je vais me permettre d'en poser déjà une, notamment à Stéphane Déo. On voulait te poser un petit peu, on a eu cette question de manière un petit peu récurrente. Quels impacts à terme sur la soutenabilité des dettes des pays européens comme l'Italie, comme la France même, qui sont arrivés dans cette crise à des niveaux de dette déjà très importants? Et comment on va réussir un petit peu à passer tout ce cap-là?
Alors, c'est une très bonne question, je te remercie parce que je viens d'écrire sur le commentaire du matin un petit passage sur ça. En fait, la dette va être monétisée. Comme je vous l'ai dit, il y a un peu plus de 1 000 milliards de QE par la BCE. Donc, ces 1 000 milliards, comment ça se passe? C'est, imaginez que la BCE achète pour 1 milliard d'OAT, donc de dette française. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est la Banque de France qui va acheter ce milliard. Donc ça veut dire que quand le Trésor français paye en coupon, il va le payer à la Banque de France. Donc ça va être un bénéfice pour laquelle Banque de France, à la fin de l'année, va rendre ce bénéfice à son actionnaire, qui est le Trésor français.
Du coup, c'est en cercle fermé. Donc, vous avez de la dette à taux zéro. Alors, vous allez me dire, à un moment donné, cette OAT, elle arrive à échéance, il va falloir la rembourser. Oui, sauf que la BCE a dit qu'elle rachetait les tombées. C'est-à-dire que quand une obligation arrive à échéance, elle rachète l'équivalent. Donc, en fait, vous avez une dette perpétuelle à taux zéro. Et je pense qu'il faut, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Alors, ce que je disais, c'est que ben, j'ai fait le cas d'école sur l'Italie parce que la Banque d'Italie détient 15% de la dette italienne. Si vous regardez les bénéfices de la Banque d'Italie, je vous passe les détails, mais c'est autour de 9 milliards. Il y a 8 milliards qui vont être rétrocédés à... Mais ces 8 milliards, c'est 15% de la charge d'intérêt. Donc, vous voyez, il y a bien 15% de la dette italienne qui, de facto, a disparu. Donc, elle a toujours une existence comptable, mais c'est le trésor italien qui doit à la Banque d'Italie, qui appartient au trésor italien. Donc, en dette consolidée, d'un point de vue économique, si vous voulez, il faudrait enlever ces 15% de dette italienne. Et là, on va rajouter l'équivalent de 10% de PIB de monétisation de la dette. Donc, pour moi, c'est un vrai problème à terme, parce que si vous faites ça de manière très récurrente, vous allez avoir des problèmes d'inflation. Dans le pire des cas, vous tombez dans le cas du Zimbabwe. Mais sur une année, comme ça, ça permet en fait de monétiser toute la dette. Et donc, en termes de soutenabilité, ça ne pose pas de vrais problèmes.
Si d'autres personnes ont des questions, je vous invite à donc taper étoile 1. Apparemment, monsieur, vous avez été très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Stéphane, merci Michel. Et puis, bah, nous espérons réaliser ça de manière tant que le confinement sera amené. Donc, portez-vous bien et à très bientôt. Merci à vous.
Bonne journée.